Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui a béni, envoyez votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse la divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Bien, chers frères, et bien, chers amis, nous en sommes à la Seconda Secundi, question numéro 109, toujours dans le traité sur la vertu de religion. La vertu de religion qui consiste à, je vous l'ai déjà dit souvent, à appliquer la vertu de justice par rapport à Dieu, rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et comme tout lui est dû, il y a beaucoup à lui rendre. Question 109, page de la Seconda Secundi, vous avez quelques notes en bas de la page 107 sur le polycopier, page 108. Quelques notes sur la question 109 et la question 110 qui se recoupent. Question 109 sur la vérité ou la sincérité, question 110 le mensonge. Alors j'insiste un peu sur ces questions-là. Le mensonge est devenu quelque chose de, je dirais, de tellement fréquent que on le boit à longueur de journée. À force de boire l'iniquité, ça devient comme de l'eau. Le mensonge est tellement fréquent que pratiquement tout le monde ment à longueur de journée. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors il faut réagir, parce que c'est pas parce que les gens autour de nous mentent comme des arracheurs de dents que cela va transformer le mensonge en quelque chose d'honnête. Alors voyons d'abord l'introduction de saint Thomas sur le mensonge, la question 109 de la Seconda Secundi, de la vérité ou de la sincérité. Donc il va se poser la question de savoir si la vérité est une vertu. Alors saint Thomas va expliquer que la vérité est considérée comme une vertu, c'est garder un sage milieu entre l'excès qui révèle ce qu'il faudrait taire et le défaut qui tait ce qu'il faudrait révéler. Elle énonce le vrai quand il faut et comme il faut. Ce n'est pas parce qu'une chose, je vous l'ai déjà expliqué souvent, ce n'est pas parce qu'une chose est vraie que ça veut dire qu'il faut publier cette chose. Il y a des choses qu'on a le droit de dire et des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, attention à ces choses-là. Est-ce à dire que, par exemple, se demande saint Thomas, que tous ceux qui parlent avec vérité fassent un acte de vertu? Non. Il est souvent blâmable de dire ce qui nous concerne, soit le bien, soit le mal. Sur le mal, pardon. La franchise ne suffit pas pour faire une bonne action. Il faut observer les règles prescrites par les autres vertus, sans quoi l'on commet un acte vicieux. Ce serait une faute, par exemple, que de se louer soi-même sans cause légitime. Même en disant la vérité, comme c'en est pareillement une, que de publier sans utilité ses mauvaises actions. C'est là où intervient la vertu de sagesse et le don de prudence. La vertu de sagesse et la vertu de prudence vont intervenir à ce moment-là pour savoir comment dire les choses, quand dire les choses, etc. Il faut, encore une fois, sortir de l'esprit de nos fidèles cette idée complètement fausse, mais qui est très très fréquente, qui consiste à dire que puisque ce que je dis est vrai, on a le droit de dire non. On n'a pas le droit de dire certaines choses, même si elles sont vraies. On n'est pas le droit de détruire la réputation du voisin, même en révélant des choses qui sont vraies. Si la chose est privée, il faut laisser la chose privée. Vous n'avez pas le droit de transformer un péché privé en un péché public. Et ce sont des choses extrêmement fréquentes. Je m'excuse de taper un petit peu fort là-dessus, mais surtout dans la vie de la tradition cédevacantiste. Il y a des gens dont l'activité principale semble être de diffuser sur Internet le plus de médisance et de calomnie possible. Alors, certains évitent la calomnie parce que quand même, ça se fait pas de raconter des choses qui sont fausses. Mais du moment que c'est vrai, ils publient ça, envers n'importe comment. Non, on n'a pas le droit de dire du mal des gens sans une raison proportionnée. Je vous l'ai déjà dit 25 000 fois, je me permets de le répéter parce que ça rentre toujours pas dans certains esprits. Donc la vérité, dit saint Thomas, est une vertu spéciale qui est une partie de la justice. Comme vertu, cette vérité est en fait, n'est pas autre chose que la véracité par laquelle l'homme se montre dans ses discours et dans sa conduite tel qu'il est, faisant connaître ce qui le concerne avec droiture, avec franchise, sans rien ajouter ni rien retrancher. Quelque chose de très rare, cette véracité. Chacun essaie de se présenter sous un jour qui n'est pas le jour réel, mais sous un jour complètement artificiel. C'est quelque chose de très dangereux, par exemple, entre fiancés. Si les fiancés n'utilisent pas le temps des fiançailles pour apprendre à se découvrir tels qu'ils sont en réalité, non pas tels qu'ils paraissent, ils ne se connaîtront pas et prendront des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences négatives, de conséquences dramatiques. Il faut cesser de vivre dans le paraître pour aller dans l'être. C'est ça la véracité, passer du paraître à l'être. J'ai certains défauts, bien je ne vais pas les cacher à ma fiancée pour qu'elle apprenne à me connaître. Et après, je vais pouvoir lui demander, voilà, maintenant que vous connaissez mes certains défauts, il y a des péchés que vous avez le droit de garder pour vous, qui regardent le secret du confessionnal, mais vous avez le devoir, parfois, dans bien des cas, de révéler à votre fiancé certains travers que vous pouvez avoir. Et après, vous pouvez lui demander, est-ce que vous m'aimez toujours autant, après que je vous ai dit, je vous ai révélé certains de mes défauts, certaines de mes mauvaises tendances. Et si la jeune fille est une jeune fille de valeur, peut-être qu'elle va répondre, je vous aime encore un peu plus qu'avant, parce que vous avez le courage de me le dire. Si vous ne me l'aviez pas dit, et que j'aurais découvert après le mariage, j'aurais pas été content du tout. Donc la prudence, dit saint Thomas, nous conseille de diminuer nos qualités plutôt que de les exagérer. Celui qui s'attribue moins de mérite qu'il n'en possède leur plaît, en s'abaissant vers eux, vers sa modestie, voilà la phrase complète. Quiconque dit de soi plus de bien qu'il n'en a, blesse les autres en paraissant vouloir s'élever au-dessus d'eux. Tandis que celui qui s'attribue moins de mérite qu'il n'en possède leur plaît, en s'abaissant vers eux par sa modestie. Donc s'élever au-dessus de son mérite est un acte plus imprudent que de s'abaisser sans au-dessous. Pourquoi ? Parce que quand on s'élève au-dessus de son mérite, on tombe dans l'orgueil. Et l'orgueil est la racine de tous les maux. Après cette courte introduction, voyons la question 110 du mensonge. Le mensonge se définit une parole de signification fausse. Notre Seigneur Jésus-Christ est très clair, tu ne mentiras pas. Et il faut justement expliquer ce commandement du bon Dieu. Expliquer ce commandement du bon Dieu parce que les enfants prennent l'habitude du mensonge et une fois qu'ils ont pris l'habitude du mensonge, ces habitudes sont pratiquement indéracinables. J'ai vu des enfants qui s'habituent à mentir. De même qu'un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera incapable de devenir un adulte qui commande droitement, de même un enfant qui n'a jamais appris à dire la vérité, qui ment à longueur de journée, est quelqu'un qui sera incapable de fonder quoi que ce soit, de fonder une famille entre autres. Parce que tout est chez lui dans le paraître. Et est-ce qu'il va falloir qu'il passe du paraître à l'être, il en sera incapable. En bas de la page 107, là, vous avez une phrase de saint Thomas. « Certaine égalité entre l'intelligence ou le signe intellectuel et la réalité comprise et signifiée. » Voilà ce qu'est la véracité. « Il y a convertibilité entre le vrai et le bien par le sujet où il se rencontre. Tout ce qui est vrai est bon et tout ce qui est bon est saint. On définit donc le mensonge, une parole de signification fausse. La vérité, c'est ça, l'adéquation de la chose et de l'intelligence. Lorsque l'image qu'on se fait d'une chose dans l'intelligence correspond à la chose qui est telle qu'elle est à l'extérieur, alors on est dans le vrai. Lorsqu'il y a une distinction entre l'image qui est telle qu'elle apparaît dans les données transmises par les sens à l'intelligence, telle qu'elle apparaît dans l'intelligence, et la chose extérieure, on est dans le faux. Alors, attention à un argument ridicule, mais qu'on entend très très souvent, surtout chez les jeunes. Je peux le faire parce que tout le monde le fait. Voilà l'argument chaud. Je peux le faire parce que tout le monde le fait. Attention, ce n'est pas parce que tout le monde vit dans le péché que ça veut dire que le péché devient quelque chose de bon. Alors, voyons un petit peu cette question 110. Le mensonge, demande saint Thomas, est-il toujours contraire à la vertu de la vérité? C'est l'article 1 de la question 110. Une question qui va comporter 4 articles. Donc, le mensonge, si vous voulez, dans l'esprit de l'Église, dans l'esprit de saint Thomas, donc j'ai donné une première définition, parole de signification fausse, on peut en donner une deuxième, la volonté d'annoncer le faux dans l'intention de tromper. Donc, le mensonge connote l'intention de tromper. Si on dit quelque chose et que notre interlocuteur comprend de travers ce qu'on lui a dit, sans qu'il y ait faute de notre part, il n'y a pas de faute. Donc, le mensonge, pour être établi comme mensonge, demande trois conditions. Lorsque dit saint Thomas, fausseté de l'énonciation, volonté d'énoncer le faux, intention de tromper. Une fois, nous verrons après les distinctions entre les mensonges. Saint Thomas ne dit pas que tous les mensonges sont pécamineux. Il y en a qui ne sont pratiquement pas des péchés. Par exemple, le mensonge joyeux, qui est une simple plaisanterie. Dans certains cas, il n'y a pas de péché du tout. Si tout le monde comprend la chose comme une simple plaisanterie. Et il y a le mensonge officieux, le mensonge pernicieux. En fait, lorsque saint Thomas parle du mensonge en général, il parle surtout du mensonge pernicieux, lequel est pécamineux. Et s'il y a une matière grave, il y a péché mortel. On va voir tout ça. Donc voilà ce que dit saint Thomas. La vertu de la vérité, par conséquent le vice opposé, consiste dans une manifestation accomplie par des signes. Cette manifestation énonciation est tout à la fois un acte de la raison et de la volonté. De la raison qui compare le signe avec la chose signifiée, de la volonté nécessaire à tous les actes moraux. L'objet propre de la manifestation est le vrai ou le faux, mais dans ce dernier domaine, la volonté déréglée peut porter son intention sur deux points, énoncer le faux ou à tromper. Donc si ces trois choses se trouvent réunies, fausseté de l'énonciation, volonté d'énoncer le faux, intention de tromper, il y a alors fausseté matérielle puisqu'on dit le faux, fausseté formelle puisqu'on veut dire le faux, fausseté effective puisqu'on a l'intention d'inculquer le faux. Donc lorsque une personne commet volontairement un mensonge pernicieux, il y a faute grave dans bien des cas, si la matière est grave, rappelez-vous là. Les conditions générales de la grave, pour qu'il y ait péché mortel. Matière grave, pleine connaissance, plein consentement. La chose que je vais faire est grave et c'est interdit par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel. Je le sais, connaissance. Après matière grave, connaissance. Ça fait rien, je le fais quand même. Consentement. Donc s'il y a matière grave, pleine connaissance, plein consentement, il y a faute grave, il y a faute mortelle. Toutefois, dit saint Thomas, le mensonge tire sa nature de la fausseté formelle qui est la volonté d'exprimer le faux. Rappelez-vous trois choses, fausseté de l'énonciation, volonté d'énoncer le faux, intention de tromper. Donc le péché mortel de mensonge est d'abord dans l'intelligence, puis dans la volonté. Donc saint Thomas explique que le mot en latin, mensonge, mandatium, est formé de contra mentem dicere, c'est-à-dire dire, parler contre sa pensée. Cela est si certain que quand on dit une chose fausse en la croyant vraie, cette fausseté matérielle qui est en dehors de l'intention ne renforme pas l'idée complète du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intention de tromper. Au contraire, lorsqu'on dit une chose vraie en la croyant fausse, cette énonciation qui est considérée comme acte moral, renferme la fausseté par elle-même et la vérité par accident est un véritable mensonge. On voit donc que le mensonge est opposé directement, formellement, à la vertu de la vérité. Donc le fait, encore une fois, que ce soit extrêmement répandu dans le monde moderne ne justifie en aucun cas le péché. Ça reste un péché. Hein, rappelez-vous, les commandements du bon Dieu, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. C'est le huitième commandement. Article 2. Le mensonge est-il suffisamment divisé en mensonge officieux, joyeux, pernicieux? Bon, je vais vite là-dessus parce qu'on a déjà vu en partie. Donc, mensonge. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, il va distinguer différents types de mensonges. Le mensonge, dit-il, peut se diviser de différentes manières. Premièrement, d'après sa nature. C'est pas ça. Partage alors en deux. L'un s'écarte en plus de la vérité, c'est la jactance. L'autre s'en écarte en moins, c'est la fausse humilité, appelée parfois ironie. On divise le mensonge parfois aussi d'après la culpabilité plus ou moins grande qu'il emprunte à la fin qu'il se propose. C'est la division habituelle. Le mensonge pernicieux a pour but de nuire au prochain. Le mensonge officieux de rendre service. Le mensonge joyeux de plaisanter. Donc, saint Thomas va citer même le grand saint Augustin, disant « Il y a trois sortes de mensonges. L'un se commet pour l'avantage de quelqu'un, l'autre pour divertir, et le troisième par malignité. Le premier s'appelle officieux, second joyeux, troisième pernicieux. » Donc, le mensonge pernicieux est, regarde, la malignité. Le mensonge joyeux regarde le divertissement. Et le mensonge officieux est fait pour l'avantage de quelqu'un. Donc, quand il y a péché mortel en matière de mensonge, c'est toujours dans le cas d'un mensonge pernicieux. Enfin, un mensonge pernicieux lorsque on détruit la réputation d'autrui, lorsqu'on a l'intention de nuire à quelqu'un. On peut diviser, si vous voulez, comme saint Thomas, donc le mensonge en deux catégories, ceux qui nuisent au prochain et le mensonge qui ne nuit pas au prochain. Le mensonge qui nuit au prochain, c'est le mensonge pernicieux. Les mensonges qui ne nuisent pas au prochain, c'est le mensonge joyeux et le mensonge officieux. Donc saint Thomas se pose la question de savoir si tout mensonge est un péché. Bon. J'ai expliqué que lorsqu'il y a aucune gravité de matière, par exemple un prestidigitateur qui raconte son boniment pour préparer les gens à son tour de magie, bon, la prestidigitation n'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière grave. Il n'y a pas du tout l'intention de nuire. Il y a l'intention de divertir. Donc, les choses annoncées pour préparer le tour de magicien relèvent du mensonge joyeux, et pas d'autre chose. Donc il n'y a pas faute du tout dans ce cas-là. Il peut y avoir, dans certains cas, attention, je n'ai pas dit que tous les mensonges joyeux sont systématiquement exclus de toute gravité morale. C'est pas vrai. Dans certains cas, il peut y avoir péché véniel. Entre autres, quand des mensonges faits par divertissement, des mensonges joyeux donc, peuvent troubler la vertu de charité. Si par exemple, on dit du mal de quelqu'un qui est infirme, par exemple, même sous forme d'exagération, qui peut toucher au mensonge, ce qu'on pourrait tenter d'appeler un mensonge joyeux, en fait, il y a manquement à la charité, puis il y a la faute. Ouais. Alors, voyons l'article 3. Tout mensonge est-il un péché? Et saint Thomas explique que tout mensonge est mauvais par sa nature même. Donc tout mensonge est un péché. pour moi, le mensonge qui nuise au prochain, c'est-à-dire le mensonge pernicieux, et même dans certains cas, le mensonge officieux. Le mensonge officieux pour tirer quelqu'un d'affaire ou se tirer soi-même d'affaire, et peut-être un péché, attention. Il peut même y avoir des cas où un mensonge officieux peut atteindre la gravité du péché mortel. Quand pour se tirer d'affaire, on ment sur quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, et que cela relève de la matière grave. Et à ce moment-là, pleine connaissance, plein consentement, matière grave et la faute grave. Donc tout mensonge est un tout mensonge qui nuit au prochain est un péché. Alors, il y a quelques objections classiques courantes qui sont souvent répétées par les gens qui connaissent mal les choses. Les objections, c'est par exemple les objections des sages-femmes d'Égypte. Il y a plusieurs objections. Le mensonge, Dieu a récompensé le mensonge commis par les sages-femmes d'Égypte. Par exemple, la servante qui avait trouvé le bébé Moïse dans l'eau du Nil. Abraham a menti en disant que Sarah était sa sœur, c'est une autre objection. Jacob en assurant qu'il était Ésaü. Judith en trompant Holoferne. Eh bien, il faut savoir que c'est très net, entre autres, par exemple, dans le cas d'Abraham, Saint Augustin dit qu'il n'y a pas un mandatium, mais un mysterium. Pas un mensonge, mais un mystère. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y avait pas mensonge strict. Il cachait une partie de la vérité, mais il n'y avait pas mensonge strict. De même, lorsque Jacob se revêtit pour tromper, d'une certaine façon, son père Isaac, en se revêtant des vêtements de son frère Ésaü, c'était pour remplir en fait une prophétie de l'Ancien Testament qui disait expressément que le plus jeune prendrait la place de l'aîné. Et cela représente notre Seigneur Jésus-Christ et le christianisme qui va prendre la place, qui était la place du premier, à savoir la place du peuple juif avant le Nouveau Testament. Donc Dieu récompensa ses sages-femmes par la bienveillance et la piété qui leur fit épargner les enfants des Juifs, et non pour le mensonge qu'ils commirent après. Abraham ne mentit pas en disant que Sarah était sa sœur, elle était effectivement sa sœur unilatérale, puisqu'elle était fille de son père. Quant à Jacob, il parla dans un sens mystique. Il avait d'ailleurs racheté son droit d'aînesse. Judith était louée non pas pour avoir trompé Holoferne, mais parce que, brûlant du zèle pour sa patrie, elle ne craignit pas de s'exposer au plus grand danger. Alors, saint Thomas cite aussi un beau texte du livre de la Sagesse, qu'il faut bien connaître. La bouche du menteur tue son âme. Bon. Et dans ce cas-là, lorsque le livre de la Sagesse parle de la bouche du menteur qui tue, cela se rapporte bien sûr au mensonge pernicieux. Vous avez quelques notes un petit peu différentes. Page 108 sur le polycopier en haut de la page. Le bien est produit par une cause parfaite, tandis que le mal résulte de n'importe quel défaut. La vérité est ce par laquelle on se montre dans sa vie, dans ses paroles, tel qu'on est. Le mensonge, dans l'enseignement de la foi, est ce qu'il y a de plus grave. On verra ça plus tard. C'est évident que dès qu'on touche un mensonge contre la foi catholique, à ce moment-là, c'est un mensonge pernicieux, bien entendu. Ne devons pas, dit saint Thomas, à ceux qui sont portés au péché, montrer un joyeux visage pour les réconforter de peur de paraître acquiescer à leur péché et encourager leur audace coupable. L'homme est tenu par une certaine dette naturelle d'honnêteté à rendre agréable ses relations avec les autres, à moins que, pour un motif particulier, s'impose de les constater pour leur bien. Bon, parfois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, mais vous n'avez jamais le droit de mentir. Surtout que si ces mensonges vont contre la charité. Il y a d'autres notes ici sur le polycopie en page 108 qui viennent en fait d'autres parties de la fin du traité sur la vertu de religion. La vertu de religion. Je vous les lis parce qu'il y a une belle phrase de saint Thomas. On viendra sur ça tout à l'heure, plus tard. Malheur à ceux qui confectionnent des coussins pour tous les coudes. Et la gosse entend par là les douceurs de la flatterie. Chercher à toujours faire plaisir, c'est dépasser la mesure et pécher par excès. Un péché d'autant plus grave qu'il s'oppose davantage à la vertu contraire. La beauté de l'homme lui vient de la raison, et c'est pourquoi les péchés les plus laids sont ceux où la chair l'emporte sur la raison. Pourtant, les péchés spirituels sont les plus graves, parce qu'ils procèdent d'un plus grand mépris. Aussi n'a-t-on pas toujours plus de honte du péché le plus grave, mais du péché le plus laid. Alors, on verra le troisième paragraphe de la page 108 un peu plus tard, puisque ça couvre une autre question de saint Thomas à propos de l'esprit de pauvreté. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Ça couvre l'avarice en fait, pas question 118, ce que je cherchais. Alors voyons rapidement la question 111. Là, je vais un petit peu plus rapidement sur ces questions-là parce qu'elles sont quand même un peu plus faciles, plus secondaires sur certains points. Question 111, de la dissimulation et de l'hypocrisie. Alors saint Thomas va se définir la dissimulation et se poser la question de savoir si une dissimulation est un péché. Est-ce qu'on a le droit de dissimuler certaines choses? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Vous n'êtes pas obligé de provoquer l'ennemi pour vous faire couper la tête. C'est même absolument interdit. Autant des grandes persécutions au début de l'histoire de l'Église, l'Église demandait à tous les catholiques de se cacher pour éviter d'être pris par la police de l'empereur. Bon, si on était pris, le bon Dieu donnait les grâces, il ne fallait pas aller chercher le martyr par soi-même parce qu'on n'était pas du tout sûr d'avoir la grâce du martyr. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin sur la dissimulation. Question 111 de la Seconda Secundae. La dissimulation qui exprime par des faits employés comme signe le contraire de ce que l'on pense est toujours contraire à la vertu de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention de tromper. Par laquelle on paraît au dehors tel que l'on est dans son âme, c'est la vérité. Est un mensonge énoncé par des faits, donc elle est un péché. Ce n'est point, attention, un acte de dissimulation que de cacher ses fautes de peur qu'il en résulte du scandale. C'est évident que si un péché est privé, il serait dans certains cas gravement imprudent de rendre public ce péché, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez scandaliser beaucoup de gens. Si un péché est privé, connu que de très peu de personnes, vous n'avez absolument pas le droit de faire connaître votre péché, ce péché de la personne, par voie publique, par, je sais pas quoi, radio, télévision, internet, ou je sais pas quoi, et révéler à tout le monde des choses qui sont strictement privées. Ah, mais cette personne a commis quelque chose qui est mauvais. Peut-être, mais ça vous donne pas le droit d'aller raconter à tout le monde ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas le bon Dieu. Le bon Dieu sait ce qu'il fait, pas vous. Donc l'hypocrisie, se demande saint Thomas à l'article 2 de la question 111, est-elle la même chose que la dissimulation? Alors voilà ce que dit saint Thomas. L'hypocrite qui, dans les églises, dans le monde, veut paraître ce qu'il n'est pas, prend les dehors de l'homme juste auquel il est bien loin de ressembler. Donc l'hypocrite, si vous voulez, c'est celui qui joue sur le paraître. Encore une fois, et non pas sur l'être. Il prétend être ce qu'il n'est pas. Il prétend connaître quelque chose qu'il ne connaît pas. Pour conclure, dit saint Thomas, l'hypocrisie est une dissimulation par laquelle le méchant, feignant d'être un homme de bien, joue un personnage qu'il n'est pas. Donc, dans certains cas, l'hypocrisie peut être gravissime, Surtout quand l'hypocrisie entraîne le péché, peut-être à la racine, de très sérieux scandales. Donc, ne cherchons pas à paraître, cherchons à être. Et si je feins d'être un homme de bien, alors que je suis un mécréant, je joue un personnage que je ne suis pas. Donc l'hypocrite, dit saint Thomas, ne se met point en opposition formelle avec la vertu dont il revêt les apparences sans en rechercher la réalité. Sa conduite est directement opposée à la vertu de la vérité en ce qu'il veut tromper par un faux dehors. Alors saint Thomas se pose ensuite la question pratique, morale, de savoir si l'hypocrisie est toujours un péché mortel. L'hypocrisie, c'est une espèce de jeu avec le prochain. Un jeu, une dissimulation. Donc, notre Seigneur en parle dans le livre de Job. Les cœurs doubles et dissimulés provoquent la colère de Dieu. Donc, l'hypocrisie, qui est en tant que disposition d'un homme qui veut tout à la fois paraître et n'être pas saint, est assurément un péché mortel. Les cœurs doubles et dissimulés provoquent la colère du bon Dieu. Voilà. Appelez-vous hypocrisie l'intention de simuler la sainteté après avoir perdu par un péché mortel? Celle-ci est tantôt mortelle, tantôt vénielle, suivant la fin qu'on se propose, laquelle peut être ou n'être pas contraire à la charité. Mais lorsque la fin qu'on a en vue, ne répugne pas à l'amour de Dieu et du prochain, le péché est véniel. Encore une fois, pour qu'il y ait péché grave dans matière d'hypocrisie, il faut encore une fois qu'il y ait matière grave, qu'il y ait connaissance et consentement. L'hypocrisie est un défaut, un péché très fréquent dans le milieu de la tradition. On joue avec le feu à longueur de journée. On joue un petit peu avec les âmes. Parce qu'on se délecte en disant du mal des autres, puis on essaie de trouver des raisons qui justifient sa médisance. Attention. Question 12. Rapidement, de la jactance. Donc il n'y a que deux articles à cette question 112, donc je vais aller rapidement. Saint Thomas se demande d'abord si la jactance est contraire à la vérité. Donc rappelez-vous ce qu'il a déjà dit à la question 110. Un mensonge peut se diviser de plusieurs manières. Premièrement, d'après sa nature, sur ce rapport, il se partage en deux. L'un s'écarte en plus de la vérité. C'est la jactance, l'autre s'en écarte en moins, c'est la fausse humilité. Donc c'est ce fait qu'on s'écarte en davantage de la vérité, constitue la jactance. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Le mot jactance signifie proprement l'action de s'élever par ses paroles, en proclamant sur son propre compte des choses qui sont au-dessus de ce que l'on a dans l'opinion des autres et surtout en soi. Prise dans ce dernier sens, l'action de se louer au-delà de sa juste valeur en disant plus de bien de soi-même qu'on en possède, la jactance est contraire par cet acte à la vérité par excès. Mais attention, dit saint Thomas, cette jactance, c'est une espèce de forfanterie, on se vante de choses, c'est couplé avec un mensonge. Donc, dans ce dernier sens, dit saint Thomas, je trouve ma page, il dit bien donc que cette jactance provient de l'orgueil, plus souvent. Elle a sa source dans l'opulence, dans le désir des richesses et dans la vaine gloire. Donc, l'opulence, le désir des richesses, la vaine gloire vont entraîner la jactance et pécher contre la charité. Article 2 de la question 112, la jactance est-elle un péché mortel? La jactance, dit saint Thomas, est dans sa nature un péché mortel, dès qu'elle porte à se vanter contrairement à la gloire de Dieu ou à l'amour du prochain. Il faut donc juger la gravité de ce que l'on a dit aux conséquences de ce que l'on a dit. Rappelez-vous le pharisien tomber justement dans la jactance. Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ni comme ce publicain. Cependant, saint Thomas explique que lorsque cette jactance ne profère aucune parole contre Dieu ni contre le prochain, et qu'elle ne procède pas d'une cause mortellement coupable, elle ne dépasse point les limites du péché véniel. Pourquoi ? Parce que la vaine gloire qui donne naissance à la jactance n'est pas toujours un péché grave. Se vanter pour le plaisir de se vanter, c'est péché par vanité plutôt que par méchanceté. Donc encore, la jactance n'est pas toujours un péché mortel. Donc il faut, encore une fois, faire un petit peu attention à ça, surtout la formation qu'on donne aux enfants dans le système d'éducation que nous avons, ne pas faire croire aux enfants que tout devient péché mortel. J'ai entendu ça dans certaines familles. Dès que l'enfant fait un petit truc qui ne va pas, tout de suite la mère va lui dire « tu vas aller en enfer ». Attention, ne vont en enfer que les pécheurs non pénitents qui ont commis des péchés mortels dans leur vie. J'avance rapidement, question 113, l'ironie de la fausse humilité. La fausse humilité, se demande saint Thomas, est-elle un péché ? Bon, s'abaisser en dessous de son mérite, une phrase qu'on a déjà vue, mais je la répète, s'abaisser en dessous de son mérite en s'attribuant quelque chose de vil qu'on ne voit point en soi, ou en se déniant des talents que l'on possède, c'est la fausse humilité, non exemple de péché. On joue un jeu avec le prochain, si vous voulez. Et si ce jeu va contre la charité, il y a faute. La fausse humilité est-elle un moindre péché que la jactance ? La réponse est oui, positive. Pourquoi ? Parce qu'on se vante pour le désir du lucre, de la vaine gloire, alors qu'on s'abaisse pour ne pas blesser les autres par des airs de hauteur. Donc attention, encore une fois, à cette véracité dans notre comportement. Question 714, je vais un petit peu vite parce que ces choses sont relativement secondaires. On arrive lentement au bout de ce traité de la vertu de religion, puisqu'il y a 122 articles, on en est à l'article 114. De l'amitié, de l'affabilité. Saint Thomas se pose la question de savoir si cette affabilité, cette amitié était d'une vertu spéciale. En fait, on va voir que l'affabilité, c'est tout simplement la vertu de politesse. Le bonheur de la société exige donc que tous les hommes, tant par leurs actes que par leurs paroles, et les uns pour les autres, les égards de la bienveillance et de la politesse. Dès lors, nous devons admettre qu'une vertu spéciale préside aux convenances de vie sociale. Cette vertu, nous appelons amitié ou affabilité. Mais une vertu... Ça s'appelle la vertu de Trapelli, par exemple, qui est une vertu qui nous fait que nous aimons, nous sommes un petit peu des bouts en train dans la société pour faire passer un bon moment aux gens sans offenser le bon Dieu. C'est une vertu qui s'appelle le Trapelli. Tous les hommes, dit saint Thomas, donc je répète cette phrase qui est importante, tous les hommes, tant par leurs actes que par leurs paroles, et le bon ordre de la société, pardon, exige que tous les hommes, tant par leurs actes ou par leurs paroles, aient les uns pour les autres des égards de la bienveillance et de la politesse. Politesse, c'est très important. Nous devons admettre, donc, dit saint Thomas, qu'une vertu spéciale préside aux convenances de la vie sociale, et on appellera cette vertu amitié ou affabilité. Cette politesse est absolument fondamentale. Le manque de politesse dans le monde moderne, surtout en France, est vraiment grave, lourd de conséquences. Il n'y a plus de politesse. Et puis de politesse, tout simplement parce que la vertu de charité a disparu, et la politesse est la dernière conséquence, la conséquence unique, ultime de la vertu de charité. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si l'amitié ou l'affabilité fait partie encore de la vertu de justice. La réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en train de traiter la vertu de religion. La vertu de religion découle directement de la vertu de justice, la vertu cardinale de justice. Donc en fait, c'est une vertu annexe. Elle se rapproche de la vertu de justice en tant qu'elle est relative au prochain. Sans les lois, en tant que ne constituant ni une de dette égale, ni une dette de reconnaissance, elle impose simplement ce que prescrit la bienséance. C'est un devoir d'honnêteté pour l'homme de procurer du plaisir aux autres par l'observation des règles de la civilité. N'allons pas croire cependant que l'affabilité ou l'amitié défend de contrister le prochain pour son avantage quand une juste cause le commande. Rappelez-vous cette expression de tous ceux qui malheur à ceux qui confectionnent des coussins pour tous les coudes. Vous voyez, c'est le monde moderne, ça. Le monde moderne. Alors, encore une fois, cette amitié fait partie de la vertu de justice. Donc, elle impose la bienséance, en certaine forme, de la politesse. L'observation, par l'observation des règles de la civilité. N'allons cependant pas croire que l'affabilité ou l'amitié défend de contrister le prochain pour son avantage quand une juste cause le commande. Parfois, vous savez, non. Bon, votre fils qui vit en concubinage débarque à la maison sans prévenir, veut passer la nuit chez vous dans la même chambre avec sa concubine. Ben non, il faut dire non. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en concubinage, ils ne sont pas mariés. Autre question très courte, la flatterie. La flatterie, qu'est-ce que c'est que la flatterie? Bon. Donc, Saint Thomas répète, moi j'ai cherché la référence, j'ai trouvé là. Saint Thomas reprend cette phrase, malheur à ceux qui préparent des coussins pour tous les bras, pour tous les coudes. En fait, c'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13, verset 18, pour ceux qui recherchaient. Moi j'ai cherché ça, je ne l'ai pas retrouvé. Vouloir plaire en toutes choses par ses paroles serait péché par un excès de complaisance. L'exemple classique, c'est le médecin qui ne veut pas dire à son médecin qu'il est malade, à son client qu'il est malade. Bon, vouloir plaire en ce cas-là à tout le monde, ce serait même un péché, même s'attaquer à un péché grave. Le médecin fait un examen, découvre qu'en fait la personne a un grave problème médical, il faut absolument qu'il passe sur la table d'opération, sinon il va mourir, mais il sait que s'il annonce ça à son client, le client va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il ne va pas être content du tout, ça va faire du mal, et donc il se tait. Mais ce sont ceux, dit Ézéchiel, qui préparent des coussins pour tous les bras. Au lieu de remplir son devoir d'État et prévenir la personne qu'elle va mourir, il faut donc qu'elle se prépare à la mort, ou que elle va mourir si elle ne passe pas sur le billard, mais si elle accepte de passer sur le billard, les gens sont tués, le médecin doit parler. Le médecin doit annoncer quelqu'un qui est en train de mourir. La personne ait le temps de se préparer à la mort et éventuellement, de, même dans certains cas, de se confesser, de haut gratiens, pour retrouver la paix avec avec le bon Dieu. L'amitié, dit saint Thomas, ou affabilité, ne craint pas de causer du désagrément, la tristesse quand il le faut pour produire un bien ou écarter un mal. Il y a des vérités qu'il faut dire. D'accord ? Le flatteur dépasse, dans l'espoir d'obtenir quelque avantage, la juste mesure de cette vertu, tenir en s'efforçant, pardon, trop de plaire par ses paroles ou par ses actes. Cela seul prouve que l'adulation ou la flatterie est un péché. Donc le flatteur dépasse, si vous voulez, dans l'espoir d'obtenir quelque chose, la juste mesure de la vertu. Cette vertu. Donc attention, encore une fois, à ça, cette flatterie qui fait tomber dans l'orgueil. La flatterie est-elle un péché mortel? Donc, évidemment, on va voir que tout ça va dépendre de la fin. I-N, c'est la fin qui va justifier. Si la flatterie consiste à louer les péchés de quelqu'un, et si elle a pour but de l'unir insidieusement dans son âme ou dans son cœur, si elle lui fournit une véritable occasion de pécher mortellement, elle est, dans ces trois circonstances, un péché grave. Donc, un péché grave, dit saint Thomas, si notre flatterie a des conséquences graves pour l'âme ou pour le corps. C'est à cause de ma flatterie, l'âme de cette personne est plus attaquée que s'il n'y a pas eu de flatterie, il y a faute grave. Mais si l'on flatte une personne dans la seule intention de lui faire plaisir, d'éviter un mal, d'obtenir un secours, une telle action n'allant pas contre la charité, le péché n'est pas mortel, il est véniel. Mais c'est tout de même un péché. Donc, attention, ne pas chercher à flatter les gens autour de soi. Question 116, également deux articles. La contradiction est-elle, donc c'est le sujet de l'article, de la contradiction. qu'on appelle parfois dans certains livres le zèle amer. Le zèle amer et l'esprit de contradiction, c'est un peu la même chose. Monseigneur Lefebvre nous en parlait souvent en conférence spirituelle. Cette espèce d'orgueil qui se traduit dans notre apostolat, qui peut donner des catastrophes, parce que justement les gens ne voient plus bon Dieu, ils voient uniquement la justice de Dieu, oublie complètement sa miséricorde. Donc voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin pour cette contradiction. Donc ce zèle amer, c'est un zèle, si vous voulez, mal réglé, non réglé par la prudence et par la sagesse. La contradiction, dit-il, par laquelle on attaque les paroles de quelqu'un dans la conversation, est un conflit qui peut avoir deux causes. Parfois, on s'énerve contre ce que dit une personne parce qu'on n'a pas pour elle l'amour qui unit les cœurs. La contradiction revient dans ce cas-là à la discorde contraire à la charité. Bon, il y a des fois, il faut mieux se taire pour ne pas violenter la charité. Mais ce qu'il a dit est faux, peut-être, mais c'est peut-être pas le moment de parler de ça parce que vous allez faire plus de mal que de bien. D'autres fois, la contradiction des saints Thomas provient de ce que l'on craint. Ne craint pas de causer la peine aux personnes qui parlent, alors elle est spécialement contraire à l'amitié ou à l'affabilité. Il faut savoir, dit saint Thomas, il faut savoir dans certains cas faire de la peine aux personnes, à condition qu'il y ait une raison proportionnée. S'il n'y a pas de raison proportionnée, non. Contredire sans crainte d'affliger, disait Aristote, est le propre du caractère fâcheux et querellaire. Et on va faire attention à ce que charité soit conservée. C'est l'évangile qu'il va y avoir, je crois, dans le dimanche prochain, me semble-t-il, pour le cinquième dimanche après l'Épiphanie, pour les derniers dimanches après la Pentecôte. Il y a l'évangile de la zizanie. Il y a des gens comme ça. Ils provoquent la zizanie partout. Qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Et ce zèle amer, c'est ça la zizanie. La zizanie, c'est celui qui a du zèle amer. La zizanie peut provoquer beaucoup de dégâts. Donc la contradiction, dit saint Thomas, est un même péché plus grand que la flatterie. Le contradicteur qui donne trop de tristesse est visiblement plus coupable que le complaisant ou le flatteur dont le tort est de vouloir se rendre trop agréable. La contradiction donc renferme plus de malice encore chez celui qui a l'intention de combattre la vérité ou d'attirer le mépris sur quelqu'un. Donc tout va dépendre de l'ordre à la fin. F.I.N. Donc la contradiction, conclut saint Thomas, renferme plus de malice encore chez celui qui a l'intention de combattre la vérité ou d'attirer le mépris sur quelqu'un. Donc, la contradiction qui renferme un plus grand mépris a plus de gravité que la flatteur. On avance sur toutes ces petites questions. Ça vous empêche de retourner voir les textes de saint Thomas si vous êtes intéressé. Saint Thomas va passer de parler de la libéralité, parfois appelée aussi de la magnanimité, la grandeur d'âme, magna anima. Donc la libéralité est une vertu. Donc voilà, d'abord dans la définition, la libéralité nous porte à faire un bon usage des biens temporels que Dieu nous donne pour entretenir notre vie, et donc une vertu. Dieu donne à plusieurs le superflu des richesses pour qu'ils aient le mérite de la libéralité. Malheur à celui qui garde tout pour lui, tombé dans l'avarice. Dieu donne à plusieurs le superflu des richesses pour qu'ils aient le mérite de la libéralité. Donc quelqu'un a une richesse pour pouvoir aider les pauvres. Attention à l'obligation. Ouais, pour tout le monde, moi le premier, je suis obligé d'utiliser une partie des dons que je reçois pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc la libéralité a-t-elle l'argent pour matière propre, pardon. Alors voilà ce que répond saint Thomas. Donc c'est une question, c'est question 117, prépare la question 118 sur l'avarice. Donc le propre de la libéralité, c'est de répandre les biens qui sont en notre possession en se montrant libre de toute affection désordonnée. C'est bien qu'un homme doit répandre sur ses semblables, ce sont toutes les choses estimables à prix d'argent. Mais attention, il faut être capable surtout pour les gens qui veulent suivre la vie religieuse, avec le vœu de pauvreté, être capable de répandre nos biens en nous montrant libre de toute affection désordonnée, pas être trop attaché aux biens de ce monde. Il y a une note intéressante à la page 108 sur le polycopier, au troisième paragraphe. Lorsqu'on disperse ses biens, on se libère en quelque sorte du souci de les garder, de les posséder. Et l'on montre qu'on a le cœur libre de cet attachement. La matière prochaine de la libéralité, ce sont les passions intérieures qui affectent l'homme à l'égard de l'argent. L'argent qui mène le monde, attention. C'est pourquoi elle appartient surtout à la libéralité de préserver l'homme de tout attachement désordonné à l'argent qui l'empêcherait d'en user comme il le doit. Partout où le bien consiste en une mesure déterminée, le mal découle nécessairement d'un dépassement, d'une insuffisance de cette mesure. Or, dans tout ce qui est moyen en vertu d'une fin, le bien consiste une certaine mesure déterminée par cette fin. Et là encore une fois, on voit bien qu'on acquiert plus de grâce en donnant ce qu'on a, notre volonté propre, qu'en donnant ce qu'on est, EST, qu'en donnant ce qu'on a. C'est ça que la vertu d'obéissance est au-dessus de beaucoup de choses, justement à cause de cela. Alors, on avance dans cette question 117. Donc, la libéralité est une vertu qui est donnée aux personnes qui ont des biens. Il n'y a pas de difficile d'avoir de la libéralité si vous n'avez rien du tout. Vous ne pouvez rien donner, vous n'avez rien. Bon. Alors, quand la libéralité s'occupe de choses pécuniaires, il est très important d'être libre de toute affection désordonnée, sinon on fait de grosses bêtises. Donc, la libéralité a pour acte le bon usage de l'argent. L'acte propre de la libéralité, c'est le bon usage de l'argent et tous les biens destinés à l'usage de l'homme. C'est une vertu très rare. Libéralité, c'est-à-dire savoir donner quand il faut, mais comme il faut aussi. En ne suivant pas, justement, toute affection désordonnée, en suivant la raison et la sagesse. Il ne faut pas croire pour autant, dit saint Thomas, que l'homme libéral doit toujours donner, il doit aussi recevoir, regardez, dans certains cas. Une mère de famille, un père de famille qui a des enfants et qui donnerait tout aux pauvres et qui n'aurait plus rien pour nourrir ses enfants, pécherait contre la vertu de prudence, c'est sûr et certain. Donc il faut savoir recevoir et garder. Non seulement il use bien de l'argent, mais il prépare les moyens d'en bien user, la réserve pour un usage convenable. C'est une vertu extrêmement utile pour une mère de famille. Du bon usage des choses matérielles, c'est ça la libéralité. Cette libéralité nous aide à prévenir tout attachement désordonné pour l'argent, règle les dépenses et les dons d'une manière convenable. On est malheureusement obligé de vivre avec de l'argent, on ne peut pas subvenir les besoins sans argent. Mais encore faut-il que nous ne soyons pas portés à utiliser l'argent avec une affection désordonnée. Donc la libéralité a pour acte principal de donner. Son acte le plus noble est de donner. On trouve là d'autres sous-vertus dans le domaine de la libéralité, par exemple la magnanimité, la munificence, et la grandeur d'âme. Savoir donner quand il faut, mais avec prudence, toujours la même chose. On n'aurait pas le droit de donner tous ses biens, et ce qui nous met dans la capacité de remplir notre devoir d'État. Il y a des choses qu'il faut une certaine prudence qu'il faut avoir dans certaines choses pour remplir son devoir d'État. Vous n'avez pas le faire quelque chose, même bon en tant que tel, qui vous amène à ne plus pouvoir faire votre devoir d'État. Saint Thomas se pose maintenant dernier article de la question 117, la question de savoir si la libéralité est la plus grande des vertus. Il répond en citant saint Ambroise, « La justice est supérieure à la libéralité. » Que la libéralité est une partie de la justice, mais la libéralité a plus de charme. Être libéral dans ses dons. Il y a des moments où il faut savoir donner avec spontanéité, justement pour pouvoir pratiquer la charité, même avec des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc la libéralité, dont la fonction primordiale est de régler nos affections relativement à la possession des richesses, celle a plusieurs vertus. La tempérance, pour modérer la concupiscence et le plaisir du corps, à la force, par rapport au bien commun en temps de guerre, au bien public en temps de guerre, à la justice, qui se rapporte au bien commun en temps de paix, et à toutes les vertus qui ont rapport aux biens surnaturels et divins. Donc les biens divins l'emportent sur les biens humains, le bien public sur le bien particulier, le bien du corps sur les biens extérieurs. Donc en haut d'échelle, il y a l'âme, puis ensuite le corps. Donc tout ce qui est en regard directement avec Dieu, les biens divins, il l'emporte évidemment sur les choses humaines. Le bien public l'emporte sur les biens particuliers, le bien du corps sur les biens extérieurs. Donc il faut garder une hiérarchie des valeurs, garder les choses importantes. Cependant, la libéralité n'est pas la plus grande de toutes les vertus. Question 118 de l'avarice. Il y a des gens qui donnent sans compter de façon très imprudente, mais il y a des gens qui ne donnent pas assez alors qu'ils devraient donner quelque chose. Donc c'est la question 118 qui est nettement plus importante, puisqu'elle contient 8 articles. Donc, pour expliquer en quoi consiste l'avarice, sa gravité, pourquoi est un péché capital, et les risques qui en découlent. Je rappelle qu'un péché capital, ce n'est pas forcément un péché mortel. Un péché capital, c'est un péché qui est la tête de beaucoup d'autres péchés, qui entraîne à beaucoup d'autres péchés. Il peut y avoir des péchés capitaux qui ne sont pas des péchés mortels. Par exemple, la gourmandise, c'est un péché capital, ce n'est pas forcément un péché mortel. Alors, voyons d'abord si l'avarice est un péché, un amour désordonné pour les biens de ce monde. Les biens extérieurs, nous dit saint Thomas, ne sont utiles que pour arriver à une fin à laquelle ils doivent être apportés dans une juste proportion. Et vous, le autant que, pas plus que, de saint Ignace. C'est avoir de garder les choses matérielles autour de nous, autant que ces choses sont pour nous un moyen d'arriver à la fin pour laquelle on a été créé. Mais si ces choses deviennent un obstacle, eh bien, il faut couper avec elles. Le péché, donc, selon saint Thomas, commence là où la mesure est dépassée. Ce qui a lieu quand on veut acquérir ou retenir les richesses d'une manière désordonnée. Si on s'attache trop à certains biens matériels, eh bien, on tombe dans des péchés d'avarice. Voilà pourquoi l'avarice, que l'on définit comme un amour déréglé des biens terrestres, est notoirement un péché. C'est même un péché spécial, parce que la matière est spéciale, on considère l'amour désordonné de l'argent. Est-ce que l'avarice s'oppose à la libéralité? Je rappelle qu'on avait vu ce qu'était la libéralité, la question 117. Et là, c'est le contraire de la libéralité. Et saint Thomas répond en disant qu'il est contraire à la libéralité d'être jamais rassasié d'argent, s'y attacher d'une manière immodérée. Donc, l'avarice et la libéralité sont contradictoires. Donc, par l'avarice, le démon nous fait tomber dans deux sortes d'excès à l'égard des richesses. L'un consiste à violer les lois de l'équité pour les acquérir ou pour les conserver. L'autre excès, à désirer les richesses avec trop d'ardeur et à les aimer sans trop, avec trop de complaisance, trop d'attachement. Si je m'attache trop à une chose licite, la chose devient pour moi une occasion de péché. Article 4. Donc on verra à l'article 7 que c'est un péché, non seulement un péché qui peut être grave, mais un péché capital. Donc, capital, caput, en latin, c'est la tête. Un péché qui entraîne le péché chez beaucoup d'autres gens. Donc l'avarice, dit saint Thomas à l'article 4 de la question 118, est de sa nature un péché mortel, bien qu'elle puisse n'être qu'un péché vénial en raison de l'imperfection de l'acte. C'est pas toujours mortel. Dans certains cas, si la matière n'est pas grave, s'il y a un manque de consentement, un manque de connaissance, il n'y a pas de faute grave. L'avarice est un péché mortel quand elle arrive à un degré tel qu'on ne craint pas, par affection pour les richesses, d'agir contre l'amour de Dieu et du prochain. Pardon. Celle qui ne l'emporte pas dans notre cœur sous la divine charité, seulement un péché véniel. Le péché mortel détruit la charité, le péché véniel maintient la vertu de charité. Donc là, encore une fois, ce sont des péchés fréquents dans les milieux de la tradition. Pour faire attention à ne pas être trop attaché au bien de ce monde, on est obligé d'avoir un minimum d'attachement, mais on ne peut pas tout faire. Alors, vous avez sur le polycopier, la page 108, un peu plus de choix de texte concernant l'article 5 de la question 108, 118, pardon, 118, article 5, l'avarice est-elle le plus grave des péchés? Passer un peu plus de temps sur cet article qui est particulièrement important. Sur cet article, oui. Donc l'avarice est-elle le plus grave des péchés? Donc, on a expliqué déjà que l'avarice est un péché, parce que la mesure est dépassée, parce qu'on veut retenir ou acquérir des richesses d'une manière désordonnée. On a vu que l'avarice est un péché spécial, à cause de son amour désordonné pour l'argent. C'est un péché opposé à la libéralité, pour s'y attacher d'une manière immodérée. Alors voyons maintenant si cette avarice est le plus grave des péchés. L'autre des péchés, dit saint Thomas, s'établit un double point de vue. L'un se tire de la nature des biens, que l'on méprise, que l'on abuse, plus ils sont élevés, plus les péchés sont grands. Alors, ça c'est une phrase importante, je la répète. La nature des biens que l'on méprise sont élevés, plus les péchés sont grands. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque les biens sont importants, il faut protéger ces biens avec plus de générosité que s'ils étaient tout à fait secondaires. Donc, cet ordre des péchés, je veux dire, l'avarice n'est pas est un péché qui va être classifié comme péché capital, mais n'est pas le plus grand des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres péchés qui peuvent être plus grands, comme par exemple les péchés contre Dieu, les péchés contre la personne du prochain, et enfin les péchés qui, comme l'avarice, tombent sur les biens extérieurs. Donc il est beaucoup plus grave d'aller attaquer directement Dieu ou directement son âme que les biens extérieurs. Donc, moins ils sont élevés, au contraire, donc je répète la phrase qui est un peu alambiquée dans cette phrase de saint Thomas. Donc, l'ordre des péchés s'établit à double point de vue. L'un se tire de la nature des biens que l'on méprise, dont on abuse. Puis ils sont élevés, puis les péchés sont grands. L'autre ordre se prend de la nature des biens auxquels on s'attache d'une façon désordonnée. Moins ils sont élevés, plus les péchés contiennent de difformité. Car il est plus honteux de devenir l'esclave d'un sujet d'objet inférieur que de subir la dépendance d'un bien supérieur. Plus on s'attache à des choses qui sont difformes, à des choses qui sont laides, plus on montre à quel point notre âme est devenue méprisable. Cependant, absolument parlant, l'avarice n'est pas le plus grand des péchés. Rien ne dénote un esprit étroit et une âme vile comme l'amour de l'argent. Et donc faites attention dans l'éducation, encore une fois, que vous donnez à vos enfants, de ne pas trop pousser sur la valeur de l'argent. Certes, il faut empêcher les gaspillages, mais il ne faut pas non plus que les enfants aient trop à faire avec l'argent, parce que justement, ils ne sont pas encore capables de gérer ces choses-là. Et c'est un drame de voir ces enfants, parfois des 12-13 ans, qui ont déjà accès à beaucoup trop d'argent, parce que leurs parents leur donnent de l'argent de poche, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Et que souvent, cet usage de cet argent de poche n'est pas fait avec sagesse. Je vais sans doute essayer de terminer. On a trop de choses encore. Je ne vais pas pouvoir terminer comme je l'aurais souhaité le traité de la religion aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses. Je ne vais pas bâcler la fin de ce cours sur la vertu de religion. Donc, nous reprendrons ce cours, parce qu'il y a des choses importantes que je voudrais bien expliquer. À l'article 5 article 5 de la question numéro 118. Alors, je répète quand même un passage que j'ai mal expliqué, j'ai un petit peu sauté. C'est l'article 4. On s'arrêtera après cet article 4 et on reprendra le cours, si Dieu veut, avec l'article 5. Alors, je vais prendre ça là pour ne pas me tromper. Donc, L'avarice contraire à la justice est de sa nature un péché mortel, bien qu'elle puisse n'être qu'un péché véniel à raison de l'imperfection de l'acte. Si imperfection de l'acte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas matière grave. Ou il y a au moins un manque de consentement ou un manque de connaissance. L'avarice contraire à la libéralité est aussi un péché mortel quand elle arrive à un degré tel qu'on ne craint pas par affection pour les richesses d'agir contre l'amour de Dieu du prochain. Celle qui ne l'emporte pas dans notre cœur sous la divine charité, seulement un péché venir. Mais si l'amour de l'argent nous fait nous éloigner du bon Dieu, nous éloigner de la grâce sanctifiante, nous éloigner de la vertu de charité, dans ce cas-là, l'avarice est toujours un péché mortel. Donc, on va arrêter là, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous donne ce cours. L'expérience montre que pour une heure, les gens décrochent, et parfois le prédicateur aussi. Je m'excuse si mon cours est parfois un petit peu décousu, il manque de préparation, mais je suis en train de déménager. J'ai passé d'une vieille maison à un appartement qui m'avait été prêté auparavant, mais qui avait été remis en état par le maire. Et donc, depuis quelques jours, je suis dans ce nouvel appartement, mais j'ai dû passer des heures et des heures à déménager mes cartons, et j'ai pas toujours assez de temps pour préparer mes cours. Je fais ce que je peux. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.